santé mentale en question.
La santé mentale en question.
On souffre, on a mal, psychologiquement.
On peut plus voyager dans sa tête.
Qu'on a envie de s'en sortir, de reprendre confiance en moi.
Les gens ressentent une souffrance et en fait cette souffrance c'est quoi?
Que représente leur handicap psychique?
And sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love.
Dans le handicap, on a perdu quelque chose, mais en même temps, il y a plus d'authenticité dans l'échange.
On leur dit « vous allez mal parce que vous n'aimez pas l'image que vous avez de vous-même ».
La santé mentale en question, Anne Voilon, bonjour. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir à notre micro Marie-Pierre Simoncor. Elle est psychanalyste, directrice d'établissement médico-social, recevant des demandeurs d'asile. Elle est responsable mission handicap chez ADOMA, structure gérant 70 000 lits en logement social. Elle fait bien d'autres choses encore, alors nous allons passer 2 jours de suite ensemble. Restez avec nous, Marie-Pierre a énormément de choses à nous apprendre. Marie-Pierre Simoncor, je suis ravie de vous inviter et de vous avoir ici parce que alors vous avez plein de choses à nous dire, à nous raconter parce que vous avez plein de casquettes. Alors déjà, vous avez une formation de psychanalyste. On y reviendra tout à l'heure. Vous êtes responsable des missions handicap chez ADOMA. Et puis j'en passe parce que on va aller petit à petit parce que sinon on va s'y perdre. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'être psychanalyste aujourd'hui? Est-ce que vous faites encore votre métier de psychanalyse?
Oui, c'est un métier, on va dire plutôt une pratique, que j'ai depuis maintenant à peu près une quinzaine d'années. Et c'est vrai que ça demande, cette pratique en libéral, ça demande tout un cheminement personnel. Et également, ça nous met dans une place un peu particulière, puisque nous recevons des personnes qui s'adressent à nous et qui ont souvent déjà contacté un certain nombre de praticiens qui n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes. C'est souvent des problèmes de la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'impossibilité soit de continuer leur travail, soit d'avoir une vie familiale qui soit satisfaisante, soit qui ont des problèmes de l'ordre, comment on peut dire, névrotique, ou des problèmes d'ordre physiologique qui peuvent être des insomnies et toutes sortes...
De faire face à un problème qui ne résolve pas, en
voilà,
fait.
Voilà, voilà. Et donc, on est souvent quand même le dernier recours. C'est un petit peu comme ça que ça se présente la plupart du temps.
Alors c'est intéressant aussi, parce que vous dites, bon, il y a vraiment quelque chose à faire là, et est-ce qu'on prend les choses d'une autre façon, puisque les personnes, est-ce qu'elles vous racontent le parcours qu'elles ont déjà fait ou pas?
Oui, très certainement on prend les choses d'une autre façon, puisque nous avons comme possibilité d'aider ces personnes uniquement la dimension de la parole. On ne prescrit pas de médicaments, on ne propose pas des séances qui mettent en jeu des techniques de relaxation ou des choses comme ça. C'est vraiment une dimension de parole qui est en jeu quand on s'adresse à un psychanalyste.
Ce qui est important quand même, parce que la parole... Dans la parole, il y a aussi les non-dits. Mais enfin, on ne va pas rentrer là-dedans. Parce que
tout à fait, tout à fait.
Là, ça serait long. Vous avez la parole et ce qui n'est pas dit aussi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Donc, on reviendra sur cette pratique parce que c'est important. C'est combien de votre temps? Parce qu'avec tout ce qu'on va voir, ce que vous faites, je ne sais pas comment vous arrivez à trouver le temps.
Alors, c'est d'abord en soirée. C'est vrai que les personnes sont souvent plus disponibles en soirée. Et puis, le samedi matin. Et puis, je consacre parfois une demi-journée dans la semaine à recevoir les personnes aussi.
Oui, alors sur le temps qui vous reste, quand même.
Oui.
Alors, vous êtes aussi responsable de mission handicap chez ADOMA. Alors déjà, qu'est-ce qu'ADOMA? Parce que moi, je sais, mais tout le monde ne le sait pas.
Oui, donc depuis 3 ans, j'ai repris des fonctions en entreprise. ADOMA est une entreprise qui propose du logement social. ADOMA a à peu près 250 logements, foyers, résidences sociales et loges en nombre de lits, autour de 70 000 lits. Donc, c'est une société, oui, qui est implantée sur tout le territoire national. Et au niveau des foyers de travailleurs migrants, puisque c'était sa première vocation, elle a à peu près la moitié du parc de national des foyers de travailleurs.
Mmh. Alors, vous êtes extrêmement sollicité, parce que il y a un manque là de logements et il y a beaucoup de personnes qui recherchent.
Oui, c'est en pleine mutation, puisqu'il y a aussi des exigences au niveau du confort et au niveau de la réglementation des logements qui ont beaucoup évolué. Donc un certain nombre de foyers doivent être réhabilités et les locataires aussi doivent aussi faire face d'une certaine façon à des listes d'attente, parce que ces logements, oui, une fois qu'ils sont réhabilités, sont très demandés.
C'est vraiment... Et puis une fois que les gens y sont, je pense qu'il n'y a pas de limite de temps.
Alors, les résidences sociales, c'est un logement transitoire, donc il a quand même pour vocation un accompagnement social de ces personnes vers un logement
voilà, plus pérenne.
Mais
ça veut dire quoi, transitoire? Parce que
ça, oui, transitoire, c'est-à-dire que on a quand même une vocation d'intégration des personnes qui sont en parcours d'intégration, qui n'ont peut-être pas encore un travail stabilisé, des revenus stabilisés, mais on pense que le travail d'accompagnement passe par le logement et qu'une fois que ces personnes, ces familles sont installées de façon assez durable, puisque ça dure 2 ou 3 ans dans un logement, voilà, il y a un travail social d'intégration pour que ces personnes puissent avoir accès à un travail stable et, autant que faire se peut, pas trop loin de leur lieu d'habitation.
Mais 70 000 lits, c'est à l'instant T, c'est sur la France entière.
Voilà, c'est sur la France entière.
Ouais, ouais.
Alors, il faut dire aussi, pour mes fonctions de responsable d'un centre médico-social, Adoma a
là,
été...
Là, ça, c'est encore autre chose. Hein.
Oui, c'est encore en effet, autre chose.
Je voulais, oui, sur votre responsable mission handicap, dans ce centre Adoma, vous faites quoi vous,
Alors, dans cette entreprise Adoma, il s'est trouvé qu'il n'y a pas de politique formalisée par rapport à l'exigence d'emploi des personnes handicapées. On emploie un certain nombre de personnes handicapées, mais il n'y a pas de politique formalisée, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas signé de convention ni d'accord d'entreprise et n'a pas développé ni de communication, j'allais dire continue, ni d'action de formation auprès de ses cadres en vue de promouvoir et, j'allais dire, de se mettre en accord avec la loi, puisque l'entreprise n'est pas arrivée au 6%.
Ça, je vous rassure, les gens tendent vers, mais il n'y en a pas beaucoup qui y arrivent. Mais c'est déjà bien d'avoir une mission. Votre rôle, c'est quoi? Alors, c'est que quand une personne handicapée a un problème, avant, après, pendant, elle vous appelle, comment ça se passe?
Alors, mon rôle pour l'instant, c'est d'essayer de réunir les partenaires sociaux, la direction générale et la direction des ressources humaines en vue d'un accord d'entreprise.
Ah bon, très bien.
Et je compte, en plus de mes responsabilités de directrice d'établissement médico-social, je compte prendre la responsabilité de cette mission handicap.
Ben, je pense, parce que vous êtes en train de la préparer, là,
voilà,
quand même.
Voilà, tout à fait, je suis en train de la préparer.
Alors, moi, j'ai une question, c'est comment je cherche un logement, je peux correspondre aux personnes qui peuvent être logées socialement, comment je suis adressée par quelqu'un à Adoma ou je frappe à une porte? Comment je fais?
Alors, il y a des dossiers. On peut faire un dossier de demande de logement, mais il faut savoir que dans l'ensemble des résidences et des foyers Adoma, il y a des accords qui sont passés avec les collectivités locales. Et un certain nombre de nos foyers logements ou de nos résidences sociales sont financés, cofinancés par soit la commune, soit le département. Et dans ce cas-là, une commission d'attribution se réunit une fois par mois, je crois, et attribue les logements vacants pour une part aux personnes présentées directement par les services sociaux de la commune et pour une part à ceux qui ont fait une demande directement à Adoma sur place.
Et les MDPH aussi rentrent dans ce circuit où elles passent par le Conseil Général directement peut-être ?
Alors oui, dans le cadre de la réglementation des réhabilitations des logements, je sais qu'on a un certain nombre de logements qui sont équipés pour les personnes handicapées et en particulier pour des personnes qui sont à mobilité réduite. J'ai d'ailleurs été contactée par quelqu'un qui cherchait un logement et qui était dans une situation de handicap avec un fauteuil roulant. Il y avait, à ce jour, justement, je crois que c'était près de Meudon, deux logements qui venaient d'être entièrement refaits. Et j'ai donc présenté cette candidature directement à la personne.
Voilà,
qui,
là, c'est votre rôle complètement.
Voilà, c'est mon rôle de mission handicap.
Alors,
comment
moi, c'est tout à fait ma curiosité naturelle. Comment on part d'une formation de psychanalyste pour déjà cette première mission handicap? Puis après, on verra les autres parce que vous vous arrêtez pas là. Comment vous êtes arrivé chez Adoma à s'occuper du handicap? Parce que c'est pas évident. Ça vous paraît peut-être évident à vous, mais c'est pas évident.
Alors, en fait, je suis arrivée chez Adoma pour un poste de direction d'établissement médico-social. J'avais une pratique en libéral de psychanalyste, mais j'étais intéressée aussi par prendre des responsabilités au niveau d'un établissement. J'ai une formation de gestion précédemment et j'avais déjà travaillé comme premier emploi dans une entreprise. Donc je suis quand même assez au fait des nécessités et de ce qui concerne les fonctions de direction. Et puis j'ai travaillé un certain nombre de, comment on peut dire, sur des sujets de politique sociale, puisque quand on est chef d'établissement médico-social, on a à mettre en œuvre les politiques sociales qui concernent
son domaine. Vous connaissiez déjà, vous connaissiez déjà. On va faire une pause musicale et puis après on va se retrouver après pour toutes vos autres fonctions, parce qu'il y a de...
Oui,
je sais
entendu.
Pas quoi vous faites. À mon avis, vous êtes fait cloner et vous l'avez pas dit. À tout de suite, Marie.
Oui, entendu.
Marie-Pierre Simoncor, donc on était en train de parler de votre formation de psychanalyste, pas seulement la formation, parce que vous êtes psychanalyste et vous recevez des gens. À part ça, vous êtes chez Adoma, responsable de mission handicap, vous êtes en train de monter un accord, donc ça va être intéressant. Vous reviendrez nous parler de cela, parce que c'est important. Adoma, je rappelle que c'est des logements sociaux, 70 000 lits, bon, c'est quand même énorme. Et puis, alors, vous arrêtez pas là, parce que c'est vrai que vous vous ennuieriez sûrement. Vous dirigez aussi un établissement médico-social.
Oui, Adoma, c'est une entreprise à capital public. Et Adoma a été sollicité par le ministère pour loger les demandeurs d'asile. Donc Adoma a maintenant une mission en plus du logement social, qui est celle d'organiser sur tout le territoire, dans des centres médico-sociaux, l'hébergement, le suivi, l'accompagnement et l'aide juridique à la procédure de demande d'asile des demandeurs d'asile qui nous sont adressés. Adoma, on nous adresse tous les ans à peu près 6 000 demandeurs d'asile sur les 20 000 qui sont enregistrés tous les ans sur le territoire français.
Alors, ces demandeurs d'asile, ils arrivent chez vous. Donc là, vous faites tout. En fait, si j'ai bien compris, vous les logez.
Et nous les hébergeons.
Et puis après, vous les suivez aussi.
Et nous les suivons. Nous avons un service de suivi social, de suivi médical aussi, parce qu'un certain nombre de personnes sont dans un état de santé qui est vraiment préoccupant, oui. Et puis un suivi juridique, puisque quand on est dans une situation irrégulière en France, soit parce qu'on est rentré de façon illégale ou clandestine, soit parce que on arrive à Roissy et que on dépose, selon la Convention de Genève de 1952, une demande d'asile en France, eh bien, la préfecture vous délivre un titre de séjour provisoire et vous oriente à travers le ministère de l'immigration vous oriente vers les centres d'accueil de demandeurs d'asile, les CADA.
Ah d'accord. Donc ils se retrouvent dans cet établissement-là. Et alors les gens qui partent, par exemple, il y en a quelques-uns, ils parlent pas le français. Vous les accompagnez aussi sur ce?
Oui, un certain nombre ne parlent pas français. Nous avons des personnes qui viennent des quatre coins de la planète. Et ça, c'est vraiment la spécificité de nos services, c'est d'accueillir des personnes qui viennent soit d'Afrique subsaharienne, soit du Sri Lanka, soit des pays anciennement pays de l'Est, de l'Union soviétique, Nouvelle République, soit des Chinois tibétains qui subissent des persécutions là où ils se trouvent.
Ça doit pas être triste dans un centre comme ça quand même. C'est... Non, ça doit être intéressant.
Oui, c'est vrai qu'on a là... d'une façon, oui. Voilà, un mélange et une diversité culturelle qui peut paraître quelquefois... pas évidente dans la gestion des dossiers et aussi dans l'accueil des personnes, mais nous avons un service qui...
Mais en fait, ils ont quand même un point commun. Ils se retrouvent quand même sur une terre différente de la leur, ils se retrouvent exilés.
Oui, oui. Alors leur point commun, c'est vrai que ce sont des personnes qui sont en rupture, et ça c'est vraiment leur situation quand ils arrivent chez nous. Ils sont en rupture avec leur communauté, puisqu'ils ont laissé leur famille, leur communauté dans leur pays. Ils sont en rupture de leur culture, puisqu'ils arrivent dans notre culture, et quelquefois c'est un choc extrêmement important. Nous avons des habitudes très occidentales qui quelquefois sont très loin des habitudes culturelles des gens que nous recevons. Et puis ce sont des gens qui ont été souvent persécutés, qui viennent de situations conflictuelles, violentes, qui ont subi aussi des mois ou si ce n'est des années de vie dans la misère, dans la pauvreté, et puis qui tout d'un coup ont pu, voilà, d'une façon ou d'une autre, sortir, passer les frontières et qui arrivent chez nous en pensant que là, il y a une chance pour eux là qui les attend.
En pensant que ça va peut-être être mieux. Voilà. Pour les cas, oui. Moins pire.
Oui, oui, ça c'est sûr.
Mais alors l'encadrement, il faut beaucoup de personnel. Alors je pense des interprètes, ça c'est sûr, parce que sinon plus personne comprend plus personne. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme encadrant? Des psychologues,
Alors on a un service d'interprète au téléphone qui fonctionne très bien. Nous avons un service d'interprétariat où, par téléphone, dans le quart d'heure, vous pouvez joindre un interprète de toutes les langues, y compris les dialectes, parce que certains pays que nous qualifions de nations, quelquefois pratiquent 10, 20, 30, 50 langues. Donc, on est parfois dans la situation de devoir trouver un interprète pour tel type de langue pour une personne qui a vraiment énormément de mal à se faire comprendre.
Donc oui, et sur place, alors ils sont logés, nourris?
Ils sont logés et ils ont une allocation pour subvenir aux besoins et aux nécessités de la vie quotidienne. Oui. Et puis notre service les prend en charge, ils ont des visites médicales, ils peuvent être pris en charge à l'hôpital si c'est nécessaire. Ben oui. Et puis, on établit avec eux, avec notre service juridique, tout le dossier administratif de demande d'asile qu'ils déposent à l'OFPRA, à l'Office français des réfugiés et des apatrides.
Il reste combien de temps dans un établissement comme celui-là?
Alors, dans cet établissement, dans le CADA, il reste en moyenne un an. Certaines personnes restent 2 ans ou 3 ans, parce que pour certaines personnes, l'organisme qui doit statuer, l'OFPRA, est quelquefois dans l'impossibilité de pouvoir statuer sur le dossier. Donc, le dossier est en attente, la situation n'est pas claire, le dossier demande des précisions, l'état de conflit du pays n'est pas très net également, et il y a des situations qui attendent 2 ou 3 ans avant la réponse de l'OFPRA et le recours qu'ils peuvent faire après cette première réponse.
Et en fait, tant qu'ils n'ont pas cette réponse, ils ne peuvent pas faire grand-chose, en fin de compte.
Voilà, tant qu'ils n'ont pas cette réponse, d'abord, ils n'ont pas le droit de travailler. Ils sont donc en attente de cette réponse. En même temps, ils découvrent Toutes les particularités de notre vie occidentale.
Mais ça, c'est peut-être bien qu'ils aient un temps aussi pour découvrir ça. Ils peuvent pas travailler immédiatement.
Il leur faut un temps d'adaptation. Mais il y en a un certain nombre qui arrivent à reprendre contact avec des communautés, surtout sur la région parisienne, et à se trouver de ce fait moins isolés. Et c'est vrai que c'est important pour ces personnes de pouvoir trouver, là où ils arrivent, sur la région, un contact de leur communauté.
Alors, vous avez un réseau aussi sur l'établissement. Vous devez avoir un réseau maintenant non, vous pouvez pas diriger la personne en disant, j'ai une communauté qui est là, ou pas trop.
Notre fonction est assez...
Elle est
assez,
pas forcément celle-là, mais
voilà,
bon.
Elle est assez limitée. On les met en contact avec un certain nombre de personnes, entre autres, quand ils doivent faire un recours. C'est-à-dire, lorsque la première demande est refusée, ils peuvent faire un recours à la Cour nationale de demande d'asile. Et là, le recours demande à ce qu'il y ait un avocat, qu'il rédige le recours, c'est-à-dire qu'il réponde aux objections qui ont été émises par l'OFPRA. Et là, nous avons un certain nombre d'avocats avec lesquels nous travaillons,
quand vous connaissez le français très bien.
Oui, aussi, et puis qui sont spécialisés dans certains types de demandes d'asile, dans certaines zones géographiques, et qui connaissent bien la situation et qui peuvent apporter des éléments importants pour leur recours.
Il y a combien d'encadrants là? Vous avez à peu près 6000 demandes, mais vous avez combien de personnes dans cet établissement que vous recevez? Combien d'encadrants?
Alors nous, on reçoit 60 demandeurs d'asile qui sont logés dans notre établissement, et nous avons à peu près, on a une équipe de 8-9 personnes.
Oui, il doit y avoir du travail. Hein.
Oui. Et c'est vrai que dans l'accueil de ces personnes, un certain nombre de personnes sont des personnes en situation de handicap. On a des personnes qui ont subi soit des chocs psychologiques très sérieux et qui arrivent chez nous et qui relèvent d'une pathologie qui doit être prise en charge par des psychiatres avec des traitements médicamenteux, faut dire les choses. Et puis on a des personnes qui sont dans un état de santé quelquefois extrêmement dégradé, des personnes quelquefois âgées de plus de 60 ans qui arrivent et qui sont vraiment gravement malades. Donc notre équipe est prête à faire face à toutes ces demandes, et c'est pour ça que dans un établissement médico-social, moi ce qui m'a paru essentiel quand on prend la direction d'un établissement médico-social, c'est qu'on se met au service de nos usagers. Et ça, je pense que c'est présent maintenant dans tous nos établissements et dans tous les établissements qui relèvent d'une mission médico-sociale, parce que la loi du 2 janvier 2002 établit les choses de façon très claire. Ce ne sont pas nos usagers qui doivent se plier aux pratiques de l'institution, mais elle établit de façon très nette et de façon très ferme que l'institution et donc toutes les personnes du service sont au service de nos usagers.
Alors, je crois que c'est une démarche, mais c'est pas toujours vraiment mis en œuvre. Alors vous travaillez à ça, parce que vous avez vraiment des réunions, vous avez travaillé sur ce sujet.
Oui, nous, on a vraiment travaillé sur ce sujet. On a réécrit le projet d'établissement, puisque la loi demande qu'on écrive un projet d'établissement. On a réécrit le projet d'établissement en ce sens. Et ça me paraît tout à fait important, parce que c'est vrai que nous avons une mission de service public, et que ces missions, dans le cadre des établissements médico-sociaux, ces missions sont toutes régies par des circulaires, par des règlements, par des accords, par des conventions. Donc ces réglementations, ces missions s'adressent à tout le monde, mais c'est vrai que si on veut que le service soit rendu aux usagers, il faut prendre en compte la situation particulière des personnes. Donc on est avec nos personnels, c'est un travail d'ailleurs qui est, je pense, difficile pour les travailleurs sociaux, parce qu'il faut intégrer,
c'est pas facile.
Voilà, il faut intégrer à la fois la dimension générale de notre mission et le cadre général qui doit être présenté et qui doit être tenu, et puis en même temps prendre la situation particulière de chaque personne et faire un travail particulier avec chacun.
Ben ça, on reviendra peut-être, on va faire une pause, on reviendra peut-être sur ce problème-là, parce que votre côté psychanalyste, évidemment, ça aide. Mais vous nous direz un peu comment vous faites, parce que c'est pas, y a une loi, mais les lois sont pas toujours appliquées, et savoir comment vous arrivez à l'appliquer. On se retrouve tout de suite. Marie-Pierre Simoncor, c'est déjà la troisième partie, ça va très vite avec vous, parce que vous faites tellement de choses et c'est tellement intéressant. Donc on a passé par Adoma, par la direction d'un établissement médico-social, et puis moi je vous ai rencontré dans un autre lieu, dans une association qui s'appelle Lien Direct. Alors comment ça s'organise, Lien Direct? Qu'est-ce que c'est par rapport à tout ça?
Oui, Lien Direct, j'ai rencontré un collègue qui est aussi directeur d'un établissement médico-social et qui a fondé cette association, Christian Besombe, qui m'a proposé de m'associer dans cette association pour rassembler, puisque c'est l'objet de l'association Lien Direct, c'est de rassembler des élus sur un sujet particulier pour rencontrer directement les entreprises, les professionnels, les experts, de façon à ce qu'il y ait un dialogue simple et direct entre ceux qui travaillent et qui se mettent au service de la collectivité pour établir les lois qui vont ensuite être appliquées par la société civile et donc par toutes ces personnes qui sont sur le terrain et qui souhaitent souvent être consultés et donner leur avis sur un certain nombre de problématiques.
Mais ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs.
Ce qui n'est pas toujours évident, c'est vrai.
Il y a des compétences d'un côté qui ne sont pas toujours connues.
Ouais. C'est vrai. Donc j'ai été invitée à un premier colloque sur l'emploi des seniors. Ce colloque qui se tient à l'Assemblée nationale, puisque c'est la raison d'être de Lien Direct, c'est de faire ces entretiens, colloques ou petits déjeuners, soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale, m'a paru être une rencontre extrêmement riche, où des personnes peuvent s'exprimer très librement sur les problèmes de société actuelle, et les élus interviennent parce que eux aussi...
Ils interrogent souvent d'ailleurs.
Hein, voilà, oui. Ils interrogent, ils écoutent et ils donnent aussi la position qu'ils ont entendue par rapport à leur responsabilité d'élus et par rapport à leurs électeurs, puisqu'ils sont en contact régulier aussi avec les citoyens.
Mais c'est très intéressant comme initiative. Alors c'est vrai que c'était tous les combien, vous
réussissez? Alors ce sont des mission. Christian Beson m'a proposé de rencontrer le président de cette association, lui étant le membre fondateur, et d'animer la commission qui s'intéresse aux personnes fragilisées, et en premier lieu de faire une première rencontre sur l'emploi des personnes handicapées dans l'entreprise.
C'est là que nous nous sommes rencontrés.
Voilà.
Et c'est vrai que vous faites pas que ça, parce qu'en fait vous organisez la réunion, mais après vous faites quand même un compte rendu. Enfin, c'est encore du travail.
Oui, après le petit déjeuner, on a fait un compte rendu de ce qui s'était passé. Et puis moi, j'ai souhaité pouvoir rencontrer toutes les personnes qui s'étaient déplacées. Il y avait des personnes qui représentaient les associations de personnes handicapées. Il y avait aussi le président de l'association des anciens élèves de l'Institut catholique des arts et métiers, que j'avais invité puisque c'est l'école que j'ai faite juste après le bac. Et puis il y avait le député Pierre Morange, qui est très intéressé par ce sujet. Il y avait des personnes qui représentent aussi tout le réseau de communication, et j'étais très heureuse de pouvoir vous rencontrer et de découvrir.
Moi aussi, je découvrais aussi, c'est vrai. Il y avait des entreprises, j'ai retrouvé des personnes du Club Être, donc des missions handicap.
Voilà, les missions handicap que j'avais pu rencontrer avant et d'autres qui font un travail très important dans les grandes entreprises, mais aussi dans des petites entreprises. Et c'était vraiment l'occasion d'écouter ce que des personnes qui sont directement en lien avec l'application de cette loi pouvaient nous dire et pouvaient aussi solliciter comme amélioration des pratiques et de la mise en œuvre de cette loi.
Ça, c'est important. D'ailleurs, ça a été assez direct sur les demandes et je pense que monsieur le député a bien entendu. J'espère, on lui rappellera. De toute façon, oui, il y a un résumé que vous avez fait, donc on lui rappellera. Et ça, c'est... est-ce que vous savez dire non quand on vous propose quelque chose d'intéressant ? Non, je demande ça parce qu'avec tout ce qu'on a vu, ce que vous faisiez, je me pose la question.
Ce que j'essaye de faire, c'est d'évaluer si je peux apporter quelque chose. Voilà, il y a certains sujets où je sais que c'est pas vraiment dans mes compétences et je laisse d'autres.
Il y en a pas beaucoup parce que quand vous avez beaucoup de compétences, ça peut aller loin. Alors c'est toujours, vous êtes quand même toujours dans cette idée de lien.
Oui. Oui, c'est vrai que à travers cette commission sur les personnes fragilisées, le travail que j'ai fait depuis plusieurs années concerne le lien social en particulier. Mmh. Il faut dire là-dessus que les psychanalystes sont interrogés sur ces questions de lien social. La pratique de la psychanalyse, elle se fait bien sûr comme profession libérale en cabinet. Mais le psychanalyste qui reçoit les personnes chez lui se rend très vite compte que ce qui est en question, ce sont les situations et les questions personnelles et individuelles des personnes, mais que toutes ces questions s'insèrent dans une logique sociale particulière. Et je pense que les personnes qui s'adressent aujourd'hui à nous ont des questions qui sont, à mon avis, pas du tout celles que qu'on venait poser à Freud au début du siècle.
Sûr. Hein? C'est sûr, tout à fait, oui. Ça évolue avec la société. C'était, les soucis du siècle, ce sont toujours des soucis du siècle, mais pas les mêmes.
Oui,
c'est pas le même siècle.
Ça, c'est très bien. Ça, c'est
Par
très
contre,
vrai.
On est passé tout à l'heure sur quelque chose qui m'intéresse. Moi, c'est dans votre direction d'un établissement médico-social. Donc, vous avez appuyé sur la loi de 2002, c'est vrai, mais qui n'est pas toujours mis en pratique. Ça, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que considérer le patient un peu comme un client, hein, c'est un peu ça. Alors, comment vous faites avoir... Ça touche au lien, hein, quand même. Comment vous faites pour soutenir quand même le personnel? Ça ne doit pas être évident de travailler dans un établissement comme celui-là. Et comment vous faites pour que ce lien fonctionne?
Oui, c'est pas toujours évident parce que les demandes sont quelquefois difficiles à identifier.
Puis les gens sont vraiment en souffrance aussi.
Voilà, quand quelqu'un est abattu, quand quelqu'un est un peu perdu... il arrive que les demandes soient multiples ou soient des choses auxquelles on ne peut pas répondre.
Oui, oui.
Et le personnel, dans ce cas-là, le travail que nous faisons en équipe, c'est d'avoir le souci de rester professionnel. Il y a des demandes auxquelles on ne peut pas répondre et la meilleure chose à faire, me semble-t-il, c'est ce que je dis à mon équipe, c'est de ne pas répondre. Voilà.
Ou de dire je ne peux pas.
Il vaut mieux dire que là... Notre service ne peut pas répondre à ça. Notre service ne peut pas procurer telle et telle chose. Notre service doit s'arrêter.
Heureusement, parce que ça peut être long. Hein? Ça peut être long.
Voilà. Plutôt que de tenter quelque chose qui met les personnes en situation duel et personnelle. Et ça, après...
Ça, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire devant des gens en souffrance, je pense.
Oui. Oui.
Parce qu'on ne sait plus très bien où sont les limites quand même.
Oui, c'est vrai. Et il faut accepter aussi que quelquefois, chacun, et moi y compris, on franchisse un petit peu la limite et qu'on accorde quelque
bien
chose,
sûr.
Qu'on fasse un petit quelque chose de plus. Et
oui,
c'est
mais jusqu'où
que...
ça va, la difficulté, c'est effectivement, on se comprend, ça c'est humain. Je veux dire, vous avez une personne en souffrance devant, vous avez tendance à accéder le plus possible, à lui rendre la vie la plus facile possible. Mais c'est vrai que la difficulté pour le personnel, sûrement, c'est comment leur expliquer, où s'arrêter, où est-ce qu'ils viennent, où est-ce qu'ils peuvent aussi avoir recours, venir vous voir, dire là, j'ai un problème.
Alors, c'est vrai que dans mon service, mais c'est peut-être pas partout comme ça, mais dans
non, mais
mon service...
Non, j'ai l'impression que ça fonctionne bien, donc
voilà,
autant dire comment ça fonctionne.
Ouvert, voilà. C'est très ouvert, et... Il se peut que l'un de mes intervenants sociaux vienne me voir et me dire « Voilà, j'ai fait ça, j'ai proposé de faire ça, je l'ai accompagné, etc. Maintenant, c'est trop lourd, la personne m'en demande encore plus, moi, je ne veux plus le faire. » Voilà. Et alors, dans ce cas-là, eh ben, on en discute, on se dit « Oui, sûrement que là, on est allé trop loin, ça va tirailler un petit peu, hein, mais il faut vraiment s'arrêter. » Donc si c'est possible, je laisse les personnes reprendre un peu les choses. Et si c'est trop problématique, je reçois la personne et je lui explique, voilà, on a fait ça, on l'a fait une fois, on est content de l'avoir fait, mais on peut pas le faire toutes les semaines. Entre autres, on aide quelquefois des jeunes mamans avec leur bébé, à s'occuper du bébé. Ce sont quelquefois des personnes qui sont...
Mais quelquefois, on est obligé dans un premier temps, oui.
Voilà. Mais quand c'est un tout petit nourrisson et qu'il y a toute la nuit, et la nuit, il n'y a pas de personnel sur place...
Ah oui, ça c'est... Ah, donc, ben, il faudrait y penser à ça.
Oui, il faut le dire à nos directeurs.
Oui, justement, hein, voilà. Justement. Non, mais on fait passer le message quand même.
Voilà, on fait passer le message.
Personne ou deux, ne serait-ce que pour ce qui
est
des bébés.
Oui, c'est vrai qu'on a une organisation qui est validée par la DAS. Maintenant, il ne faut plus dire la DAS, il faut dire la DDCS.
Oui, à chaque fois, on s'y perd, mais c'est pas grave. L'ancienne DAS.
L'ancienne DAS. Mais c'est vrai aussi que, quelquefois, on est obligé de revenir en arrière. Et j'allais dire, voilà, c'est la vie. Quelquefois, on fait un peu plus. Il m'est arrivé, moi aussi, à donner des délais supplémentaires.
C'est sûr.
Et puis à voir que ça n'aidait pas la personne à comprendre que maintenant sa prise en charge était terminée. Et ben donc, on revient un petit peu, on reprend
les
choses.
Mais vous avez essayé, au moins.
C'est ça. Oui, et je trouve qu'on peut se tromper, on peut essayer, on peut se tromper. Absolument. Mais il n'y a rien qui empêche de reprendre les choses. Et
non, puis je pense que ce que vous avez fait une première fois, même si la personne après, c'est pas suffisant ou elle a l'impression, elle le sait très bien.
Oui, c'est vrai aussi.
Heureusement. Heureusement. Mais ça doit être quand même très passionnant.
C'est passionnant et c'est vrai qu'en même temps, il y a un côté qui est très, très complexe et en même temps qui sollicite chacun, c'est la sortie du centre. Ah, accueillir ça. Les personnes qui arrivent là démunies, ça se fait plus ou moins facilement. Faire le dossier administratif, c'est un lien avec la personne, ça nous permet de la connaître mieux, elle, ça permet aussi de se délivrer d'un certain nombre de choses, de raconter son histoire. Bon, là-dessus, on reste aussi très professionnel. Dans ces récits, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas véridiques. Et moi, je demande à mon personnel de ne pas juger, de ne pas essayer de mettre la personne en difficulté, parce que quelquefois ça se fait. On n'est pas là pour juger du récit de la personne, on est là pour entendre ce que la personne nous dit.
En tant que psychanalyste, vous savez qu'il n'y a jamais de hasard.
Voilà.
Enfin, si elle raconte quelque chose,
voilà.
C'est que ça veut dire quelque chose.
Absolument, hein. Absolument. Et on a eu quelquefois le cas qui nous a été rapporté de quelqu'un qu'on avait poussé vraiment à raconter quelque chose qu'elle ne voulait pas raconter. Entre autres, c'était des violences, pratiquement un viol ou quelque chose comme ça. Et la personne, après, ne voulait plus revenir au centre.
Oui, mais parce que
son image
très difficile.
Était brisée pour elle. Elle ne voulait plus rencontrer les personnes. Donc, il faut rester très prudent et prendre ce que dit la personne. Maintenant, si on sent, parce que nos personnels sont quand même assez avisés et ont de l'expérience, si on sent que c'est un récit qui est un peu fabriqué, on peut dire à la personne, attention, on va vous poser des questions précises, il va falloir répondre précisément à l'officier de protection, ils ont des renseignements très précis sur les lieux, les conflits, etc.
Ça, on va revenir. On va prendre la sortie là pour cette émission-là. On va se retrouver demain, si vous le voulez bien, et on va reprendre quand même cette histoire de sortie, effectivement, qui doit être très complexe,
difficile
pour tout le monde. On se retrouve demain. Merci beaucoup. À demain.